Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Levons-nous.
Prenons
nos Bibles. Nous allons lire dans Jean 14.
Jean 14.
Pour continuer notre leçon sur le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour. Nous savons que tu nous aimes depuis avant la fondation du monde. Tu nous as choisis et prédestinés pour vivre avec toi éternellement,
Amen.
Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous t'abandonnons toutes choses, Seigneur, afin que tu fasses ton travail en nous, Seigneur.
Amen.
Car nous étions perdus, tu nous as retrouvés,
Amen.
Et nous étions aveugles, et tu nous as ouvert la vue, Seigneur.
Amen.
Et s'il y en a encore quelques-uns parmi nous qui sont encore perdus et qui ne voient pas encore, Seigneur, tu nous as envoyé ta parole et tu es venu toi-même pour nous parler,
Amen.
Afin de nous ouvrir les yeux.
Amen.
Que béni soit ton nom, Seigneur.
Seigneur.
C'est pour cela, bénis la prédication de la parole. Ô Dieu, touche chacun de nous,
Amen.
Afin que nos oreilles puissent entendre,
Amen.
Et nos yeux puissent voir.
Amen.
Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Jean 14.
Jean 14.
À partir du verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen.
Amen.
Pouvez-vous asseoir. Pendant que nous allons lire Jean 4, à partir du verset 20, la sœur Ama n'a pas de Bible. Jean 4, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen.
Amen.
Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole.
Amen.
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 Tu connais la sœur? La tante de ta voisine. Elle s'appelle comment? Sœur, que Dieu te bénisse. On voudrait juste savoir ton nom.
Je m'appelle Madame Adjoumé
Caroline.
Madame
Adjoumé.
Adjoumé.
Adjoumé. Caroline.
Caroline. Que Dieu te bénisse.
Marie-Jolouée.
Tu peux t'asseoir.
Agra-Abidjan.
C'est juste pour qu'on se connaisse. Et si on te rencontre dans la rue, qu'on puisse te saluer. Moi, je m'appelle René. Mbungu.
Mbungu.
Mbungu. C'est un nom congolais. Je suis du Congo Brazzaville. Mais j'étais congolais, je ne suis plus congolais. Je suis maintenant chrétien. Et ma prière, c'est que vous aussi, vous laissez le Bénin et que vous devenez des chrétiens. Alléluia. Parce que Dieu nous a connus bien avant la fondation du monde. Et depuis là-bas, nous sommes des chrétiens. Nous sommes venus seulement nous perdre dans ce monde-là. Nous avons oublié ce que nous étions là-bas dans l'éternité. Auprès de Dieu. En Dieu. Alléluia. C'est pour cela que, en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé la parole pour nous ouvrir les yeux et pour que nous puissions reconnaître qui nous sommes. Qu'on ne dise pas que moi, je suis de la famille Aglossi. Oh, la famille Aglossi, bon, je change de nom parce qu'on va dire c'est eux qui nous ont vendu la parcelle là. Si je dis quelque chose de mauvais, on va dire qu'on les calomnie. La famille X est ici au Bénin. Et cette famille là, depuis qu'elle existe, ils sont dans le vaudou de Tonnerre. Les enfants qui naissent sont là-dedans. Et ça va de père en fils. Mais s'il y a un chrétien dans cette famille, Dieu va le sortir. C'est pas lui-même qui va sortir. C'est Dieu qui va le sortir. C'est Dieu qui va le chercher pour se révéler à lui et dire, mais mon fils, ma fille, mais tu n'es pas de cette famille. Tu es de la famille de Christ. Et c'est là où commence le combat. Parce que la famille X là ne va pas accepter qu'on leur prenne un de leurs membres. Alors ça va être le combat. C'est pour cela que Dieu nous a dit ici que ce lieu-là est un lieu de combat. Préparez-vous à combattre. Quand on vient à Jésus-Christ,
on
ne vient pas pour s'amuser. On ne vient pas pour se réjouir. On va se réjouir. Mais avant de se réjouir, il faut d'abord combattre. C'est à la fin de la bataille que nous allons nous réjouir. Alléluia. À la fin de la bataille, nous serons couronnés. Et parce que nous aurons vaincu. Mais pour le moment, il faut combattre. Il faut jeûner. Il faut prier. Il faut souffrir. Et accepter de souffrir. La souffrance est grande quand vous ne l'acceptez pas. Les combats sont difficiles quand vous ne les acceptez pas. Parce qu'on vous a enseigné que quand on vient à Jésus, c'est le plaisir, quoi. Comme les gens vont dans les églises, ils chantent, ils dansent, ils font des fêtes et des cérémonies, mais ils ne savent pas qu'ils sont entre les mains de Satan. Et s'il y a des enfants de Dieu parmi eux dans ces églises-là, Dieu va les chercher. C'est pour cela qu'il est venu maintenant à Cotonou pour chercher ses enfants. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous a demandé de prier et de jeûner. Il nous a dit que vers la fin de ce mois, il y a quelque chose que le diable a prévu. Prions beaucoup, jeûnons beaucoup. Le frère conseiller avec nous. On est ensemble. Parce qu'il me semble que tu es en train de penser à quelque chose que tu as laissé à la maison. Il faut regarder le prédicateur. C'est ça qui montre que vous êtes en train de suivre. Sauf peut-être le frère Basile, il doit aussi surveiller la porte. Même la sœur Emilienne qui est derrière là-bas, c'est pour cela qu'on a mis des vitres. C'est pour que les mamans qui sont là-bas puissent regarder le prédicateur et que le prédicateur aussi puisse les voir. Et Dieu nous a dit que ceux qui veulent jeûner, il va leur donner la force de jeûner. Ouais, il faut d'abord que toi-même tu veuilles. Il faut que tu ouvres la porte à Dieu pour que Dieu puisse travailler. C'est pour cela que Dieu demande la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une requête de prière. La sœur Akouvi demande que l'église prie pour sa jambe. Elle a beaucoup de douleurs ces temps-ci. Alléluia. Ah, la sœur, la foi est en train de faiblir. Hier, le Seigneur a montré que tu es guéri. Mais il faut continuer à témoigner. Le frère Branham avait mal à l'estomac. Diminue un peu, frère. Hein, il avait mal à l'estomac. Et il n'arrivait plus à manger. Et on lui faisait manger seulement de petites bouillies. Et puis il est parti dans une église, on a prié pour lui. Il était encore jeune. Hein? Et dès qu'on a prié pour lui, il a dit, je suis guéri. Il est rentré à la maison. Il dit, maman, donne-moi de la nourriture. Dis, je te fais ta bouillie. Dis, non. On a prié pour moi, je suis guéri. Tu me fais du pain. Tu mets des haricots là-dedans. Comme on dit au Cameroun, tu charges bien le pain.
doigts dans nos pères.
Sa mère dit, mais tu vas mourir. Le docteur a dit que si tu avales même quelque chose de solide, là, tu meurs. Dit, maman, je suis guéri. Sa mère a fait. Il a pris le pain. Il a croqué ça. Il a mâché. Il a avalé. L'estomac a rejeté. Parce que le diable dit, tu n'es pas encore guéri. Lui, il a bouché la bouche et il a encore avalé. L'estomac a encore rejeté. Sa mère pleurait déjà. Ah, mon fils va mourir. Mais il a encore bouché la bouche. Il a encore avalé. L'estomac n'a plus rejeté. Alléluia. Et il a fini tout le pain. Pourquoi? Parce qu'il a résisté au diable. Les douleurs qui deviennent plus graves là, c'est parce que Dieu a montré que tu es guéri. Tu dois continuer à témoigner. C'est le diable qui veut te faire perdre la foi. Si tu dis, ah, ma jambe là fait trop mal, le diable devient grand là. Mais si tu dis non, je suis guéri, plus elle fait mal, plus tu dis je suis guéri, le diable va diminuer. Et un jour, quand tu vas te réveiller, tu dis mais je n'ai plus mal. C'est les enfants qui vont te dire, mais maman, tu marches bien là. Il y avait une femme, elle est partie chez Frère Branham. Elle avait un cancer au nez. Le nez était déjà parti et le cancer était en train de rentrer dans la tête. Vous savez, les nez des blancs là sont grands là. Le cancer avait tout bouffé et son docteur a dit on ne peut plus rien faire. Donc c'était la mort assurée. Elle est partie se faire prier et faire vraiment à prier. Et elle lui a dit, ma soeur, tu es guérie. Elle a dit, alléluia. Elle est partie à la maison. Elle a proclamé à toute sa famille qu'elle est guérie. Amen. Elle est partie voir le docteur. Il dit, je suis guérie. Elle dit, comment ça? Mais je vois ton nez toujours... disparu. Il y a toujours la plaie là, le cancer est là. Dis non, on a prié pour moi, je suis guéri. Yeah, vous avec fanatisme là. Vous êtes des fanatiques religieux. Elle est partie à la maison, elle a continué à témoigner, et un matin quand elle se réveille, les enfants sont en train de crier de joie. Oh maman, tu es guérie. Elle-même, elle ne savait pas. Puisque tu ne peux pas voir ton nez. Mais le nez avait poussé. Elle est partie voir le docteur. Dis, docteur, je suis guérie. Dis, ah, mais tu es parti chez quel médecin? Je suis allé voir docteur Jésus. Et le médecin dit, ah, mais il travaille où? Je ne le connais pas. Il ne connaissait pas Jésus. Mais nous connaissons Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Parce que Dieu, c'est le Père de Jésus. Et Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pas deux personnes, c'est la même personne. Dieu et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Parce que nous avons lu dans Jean 4 ici, la Bible dit, Dieu est esprit. Et comme lui, il est saint, c'est pour cela qu'on l'appelle Saint-Esprit. Parce que dans l'éternité, Dieu est esprit. Donc c'est le Saint-Esprit. Et quand quand il a changé de forme, il a parlé, alors le Fils est sorti de lui. La parole. C'est pour cela que Jésus dit que je suis sorti de mon Père. Je suis sorti de mon Père, le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Jean 1 que c'est la parole qui s'est faite chair. Donc Jésus-Christ est la parole faite chair. La parole qui est sortie du Père. La parole qui est sortie du Saint-Esprit. Qu'on appelle le Logos. Le corps dans lequel le Saint-Esprit s'est engouffré. Il a parlé. Cette parole a formé un corps. Et Dieu est rentré dans ce corps. Et dans ce corps, il a créé le monde. Il a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Le visible et l'invisible. Vous voyez les gens du monde qui se croient forts là. Mais c'est Dieu qui les a créés. Même leurs démons là, leurs vaudous là. Mais c'est Dieu qui les a créés. Mais Satan lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce qu'il peut être plus fort que son créateur? C'est pour cela que la Bible dit: celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu habite en nous. Et il est plus grand que Satan qui habite dans le monde. C'est pour cela qu'on ne peut pas les craindre. Mais vous avez peur de quoi? C'est pour cela que Dieu nous dit tout le temps: mais pourquoi vous avez peur? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Alléluia. C'est Dieu qui a tout créé dans sa forme parole. Et depuis, il est dans cette forme-là. Plus tard, on l'a vu dans la Bible, il est devenu Melchisédek. Il a rencontré Abraham et il lui a donné la Sainte Cène. Et comme il lui avait donné la victoire, Abraham lui a payé la dîme de tout ce qu'il avait. Cette terre appartient à Dieu. Tous ceux qui travaillent et vivent sur cette terre doivent payer l'impôt à Dieu. La dîme, c'est l'impôt qu'on donne à Dieu. Parce que nous vivons sur cette terre. Nous travaillons sur cette terre. Quand tu fais ton champ de maïs, si tu as récolté 20 sacs, 2 sacs ne t'appartiennent pas. Ça appartient à Dieu. Toi, tu prends 18 sacs. Les 2 sacs là, tu donnes à Dieu. Tu vas trouver un serviteur de Dieu que tu penses que Dieu travaille avec lui et tu vas lui donner ça. Et quand le serviteur prend ça, ce n'est pas à lui, c'est à Dieu. Alléluia. C'est pas son argent, c'est l'argent de Dieu. Dieu lui demande de gérer ça. Il prend là-dedans ce qu'il lui faut pour vivre avec sa femme et ses enfants. Le reste là, ça reste là. Et Dieu va l'utiliser pour envoyer les gens prêcher la parole. Mais maintenant, qu'est-ce que les pasteurs font? Même si on lui amène 10 millions de dîmes, Il prend ça, il met dans sa poche. Il achète des carrés, des buildings. Il loue ça. Il devient de plus en plus riche. Il achète des voitures. Il met ça au service de Satan. Mais oui, mais quand on achète des bâtiments pour devenir riche, on met ça au service de Satan. C'est pour les plaisirs de ce monde. Et même si un prédicateur dit, vient et dit, Dieu m'a dit, va prêcher à Natitengu. Il dit, bon, je veux prier pour toi, que Dieu te bénisse. Il lui donne même pas le prix pour payer la voiture, le camion, le bus qui va l'amener à Natitengu. Mais le pauvre, comment il va commencer à Natitengu? Mais l'argent que Dieu donne là, c'est pourquoi? C'est pour son service. Donc chacun de nous, chrétien ou païen, tout le monde doit payer la dîme. Et Dieu a dit que si vous ne payez pas, il va vous trouer les poches. Parce que vous le volez. Alors, si, comme vous le volez, il vous empêche de vivre avec cet argent. C'est pour cela que dès que tu touches ton salaire à la fin du mois, comme tu ne veux pas payer la dîme, les enfants tombent malades. Tu as plein de problèmes. Tout de suite, l'argent est parti. Tu te demandes, mais pourquoi tu n'arrives pas à garder l'argent? Mais parce que tu voles Dieu. Mais est-ce qu'un homme peut voler Dieu? Est-ce qu'un homme peut mentir à Dieu? Les Américains connaissent ce principe-là. Ils connaissent cette règle-là. Là-bas, les hommes d'affaires, à la fin de l'année, ils calculent la dîme. Il trouve n'importe quel serviteur de Dieu, même un prêtre catholique, il lui donne ça. Et l'État n'impose pas la dîme. Ça dit que tu dois enlever ça sur tes impôts. Parce que l'État là, c'est un État chrétien. Ils connaissent la valeur de Dieu. Mais dans nos pays, nous ne connaissons pas la valeur de Dieu. C'est pour cela que les pays d'Afrique n'avancent pas. Alléluia. Mais regardez les présidents. La nuit, ils se retrouvent auprès des féticheurs et des marabouts. Et c'est eux qui leur disent comment il faut faire avancer le pays. Ça ne peut pas se faire. Mais vous voyez qu'un vieux qui est au village là-bas, il n'a jamais fait l'école. Il n'a jamais lu la Bible. Vous croyez qu'il peut faire avancer un pays? Mais c'est compliqué. Il faut se confier en Dieu. L'histoire montre que les pays qui se sont développés, les pays européens, les pays américains, c'est parce qu'ils ont accepté Dieu en ce temps-là. Regardez l'Allemagne. Ils se sont développés au temps de Luther. Regardez l'Angleterre. Ils se sont développés au temps des missionnaires qui travaillaient là-bas. Regardez les États-Unis. Ils se sont développés au temps des pentecôtistes. Les vrais pentecôtistes. Et au temps de frères Branham. Alléluia. Mais depuis qu'ils ont rejeté le prophète de Dieu, ils sont en train de diminuer. Et vous voyez maintenant quelqu'un qui monte, c'est la Russie. La Russie est en train de braver les États-Unis en Ukraine. Vous suivez ça, non? S'il y a quelque chose que vous devez écouter, c'est les nouvelles. Chaque jour, il faut écouter les nouvelles du monde. Il faut écouter ce qui se passe en Israël. Parce que Israël, c'est la montre de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'il faut faire. La Russie est en train de monter. Et c'est cette Russie qui va bombarder Israël. Qui va bombarder les États-Unis. Qui va bombarder le Vatican. La Bible le dit dans Apocalypse 18. En une heure, la grande ville arrogante ne sera plus trouvée. Et les marchands vont se lamenter. Mais avec qui on va encore faire le commerce? À qui on va encore vendre les hommes qu'on tuait là? Vous voyez, il se passe un grand commerce la nuit. Hein? Et le commerce des corps et des âmes d'hommes. Et c'est Babylone la Grande qui achète et revend. L'église catholique. C'est pour cela qu'il y a une bombe préparée pour elle en Russie là-bas. Il y a une bombe préparée pour les États-Unis parce qu'ils ont rejeté le prophète de Dieu. Alléluia. Et si vous aussi vous rejetez Dieu, il y a des châtiments qui sont préparés pour vous qui vous attendent. Nous avons écouté la prédication ici. La tempête qui approche, elle n'approche même plus, elle est déjà là, elle est autour de nous. Alléluia. Et il faut aller se réfugier en Christ. C'est le seul lieu de refuge. Jésus-Christ, la parole. Pour arriver dans ce lieu de refuge, il faut prendre les deux ailes. Les deux ailes du grand aigle, Jéhovah. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Dieu a rencontré Abraham, il était en tant que Melchisédek. Un homme théophanique. Plus tard, nous le retrouvons dans Genèse 18. Un homme vient rencontrer Abraham. Et Abraham, qui avait la révélation, l'appelait Elohim. C'est-à-dire le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et Elohim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré qu'il était Dieu en discernant les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Comme vous êtes assis là, il n'y a qu'un seul homme qui peut savoir ce que vous avez fait dans votre vie. Et c'est Dieu. Alléluia. Et avec Dieu, ça ne rate jamais. Vous vous dites, mais je suis parti chez le marabout aussi, il m'a dit ce que j'ai fait dans ma vie. Mais considère bien, est-ce que tout ce qu'il t'a dit est juste? Mais si c'est juste, pourquoi tu restes pas chez un seul marabout? Tu changes de marabout. Pourquoi? Parce que tu n'es pas satisfait. Mais quand on arrive chez Dieu, on se repose. Parce qu'on est satisfait. Montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Je suis satisfait en Jésus. Jésus a dit à la femme samaritaine, dit, mais j'ai une eau, si je te la donne et si tu bois, tu n'auras plus soif. Alléluia. Buvez la parole. Vous n'aurez plus soif des choses du monde. Vous trouverez le repos. Vous allez vous reposer de vos œuvres. De vos œuvres charnelles. Du matin au soir. Vous ne faites que courir derrière l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. La Bible dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Vous verrez les gens riches là, il a des milliards, mais il n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui lui manque. Mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais c'est quoi? Mais c'est Jésus. C'est parce que tu n'as pas Jésus que tu n'es pas satisfait. Alors viens à Jésus, venez à moi, vous tous qui n'êtes pas satisfaits, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai la paix. Alléluia. Elohim a discerné les pensées de Sarah. Et a dit à Abraham, l'année prochaine je reviens, et tu auras le fils promis. Et il a accompli. Alléluia. Il a changé Sarah et Abraham. Ils étaient vieux. Abraham avait 100 ans. Sarah 90. Mais ils sont devenus jeunes. Ils ont fait un voyage de 300 kilomètres. Vous voyez, des vieux de 100 ans qui vont quitter ici. Jusqu'où? Jusque peut-être au Ghana. Alléluia. Hein? Ils ne sont plus vieux. Et quand ils arrivent là-bas, le président ghanéen, il voit que la vieille Sarah de 90 ans, c'est la plus belle fille d'Accra. Abraham a vu que Sarah était tellement devenue belle. Dit, il faut dire que je suis ton frère. Pardon, pardon, on va me tuer. Une vieille de 90 ans. Et c'est la plus belle fille du pays. Vous voyez pas que Dieu a changé Sarah. Alléluia. Mais ces choses-là, c'est écrit dans la Bible depuis longtemps. Mais pourquoi on ne le voyait pas? Les grands théologiens ne le voyaient pas. Il a fallu un illettré que Dieu a appelé, que Dieu a établi comme prophète pour qu'il puisse nous dire ça. L'ayant reçu de la part de Dieu. Le prophète Branham n'a pas fait l'école. Il est arrivé seulement jusqu'au CM2. Il n'a même pas pu. Quand il lisait la Bible, vous voyez qu'il n'arrive pas à lire. Il dit lui-même que quand j'écris quelque chose, après moi-même, je n'arrive plus à lire ce que j'ai écrit. Et les gens lui disaient, mais toi, tu n'as pas fait l'école. Tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu. Il dit, moi, je n'ai pas fait l'école, mais Pierre aussi n'a pas fait l'école. Pierre était un pêcheur. Un pêcheur. Il pêchait le poisson. Alléluia. C'était un illettré. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Dieu l'a établi comme chef de l'église de Jésus-Christ. Il lui a donné les clés du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Les pharisiens ont reconnu que ce que Pierre fait là, mais comment il peut faire des choses comme ça alors qu'il n'a jamais été à l'école. Alléluia. Mais c'est parce que Jésus était avec lui. C'est pas l'instruction. Mais maintenant, les enfants ont des séminaires. Dès que tu vas au séminaire, tu deviens docteur en théologie. tu vas maintenant enseigner la parole de Dieu. Mais on peut te poser la question, celle que Paul a posée à Éphèse dans Acte 19. Mais comme tu es sorti du séminaire avec ton doctorat de théologie, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est la question essentielle. Parce que Jésus a dit que les œuvres que je fais, c'est le Père qui habite en moi qui fait ses œuvres. Et le Père là, c'est le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais qui va parler en toi? Mais qui va agir en toi? Jésus a dit dans Jean 14 là qu'on avait, mais que les paroles que je vous dis là, je ne les dis pas de moi-même. Ça veut dire que c'est le Père qui parle en moi. C'est pour cela que Dieu nous a dit à Nouakchott, mais pourquoi tu te sous-estimes? Ce n'est pas toi qui vas parler. Je parlerai moi-même. J'agirai moi-même. Alléluia. Personne n'a le droit de prêcher la parole s'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le propriétaire de la parole. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut parler de la part de Dieu. Mais maintenant, même dans le message, les gens veulent faire des écoles de prophètes. Vous avez vu notre frère qui est venu ici? Il a appelé l'autre qui était là. Il l'a embrassé. Il a dit, c'est un prophète. Il a créé une école de prophètes. Et lui-même, il est en train d'en faire une au Togo. Mais c'est ce que Branham a condamné. Le prophète même qu'il dit suivre, il a condamné les écoles de prophètes. Le prophète Élisée, il allait avec Élie. Et Élie devait être enlevé ce jour-là. Et ils ont rencontré les gens qui les étudiants de l'école de prophètes. Ils ont dit à Élisée, Élisée, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Et il dit, non, taisez-vous. Moi, je le sais. Élisée et Élie ont traversé le Jourdain. Élie a été enlevé. Quand Élisée est revenu avec le manteau d'Élie, il a tapé le Jourdain avec le manteau d'Élie. Et il a traversé à sec. Les fils des écoles de prophètes étaient là pour l'attendre. Il n'avait pas pu traverser. Ils ont dit, ah, sûrement l'esprit d'Élie repose sur Élie. Bon, maintenant écoutez. Les gens qui ont prophétisé que ton maître va être enlevé, maintenant ils disent à Élisée, mais Élie, on l'a vu qu'il est parti. Mais sûrement il est parti tomber. Laisse-nous, on va le chercher. Élisée leur dit, mais enfin, mais il a été enlevé. Vous n'avez pas vu la colonne de feu qui est venue le prendre? Et il l'a emmené. Il a été enlevé. La preuve, c'est que des centaines d'années plus tard, Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus avec Élie. Et avec Moïse. C'est la preuve que Élie a été enlevé. Mais les fils des écoles de prophètes, ils ont dit, on va les chercher. Ils l'ont cherché. Ils ont cherché. Ils sont revenus honteux et confus. Et on ne l'a pas trouvé. Je vous avais dit. Plus tard, Élisée revient les visiter. dans leur école de prophètes. Quand ils voient Élisée, ils disent non, il ne faut pas rester ici. Toi, on ne veut pas de toi.
Ah,
mais qu'est-ce que j'ai fait? Dis non, toi tu es trop dur. La parole que tu prêches là, c'est trop fort. Bon, on va te faire un repas et puis tu vas partir. Il y a un qui est parti dans les champs là. Il est parti cueillir des haricots. Des petits pois. Mais comme il ne sait pas faire la différence entre les petits pois et les pois sauvages, il a créé les pois sauvages, il est venu préparer. Et quand les autres ont goûté, ils ont dit la mort est dans le pot. Vous voyez, les écoles de prophètes, les fils des écoles de prophètes, ils ne savent pas distinguer entre la parole et ce qui n'est pas la parole. Parce que c'est la parole qui donne la vie. Mais ils vous prêchent n'importe quoi. Ils ajoutent et ils retranchent. L'école de prophètes, ça a été condamné dans la Bible. Les 450 prophètes d'Akab étaient dans l'école d'Akab, l'école de prophètes d'Akab. C'est eux qui ont fait mourir Akab. Mais le véritable prophète Michée, il a dit à Akab, ne va pas à la guerre, tu vas mourir. Mais il a préféré écouter l'école de prophètes de Cotonou. Alléluia. Jézabel aussi avait une école de prophètes. C'est les couvents. Elle avait un couvent de 400 prophètes. C'est cela que Élie a dit, venez à la montagne de Carmel. On va voir entre Baal et l'Éternel qui est Dieu. Ils ont prié de midi à 14h. La colonne de feu n'est pas venue dans leur église. Alléluia. Amen. Et quand Élie est venu, il a rétabli l'autel. Il a prêché la parole. Je passerai par ce sentier une fois de plus. Et au temps du soir, la colonne de feu est descendue. Élie a égorgé les 450 prophètes de Jézabel. La parole que nous sommes en train de prêcher, c'est ce travail-là qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'égorger toutes les traditions de ce monde. L'école de prophètes, c'est pas de Dieu. On n'apprend pas à prophétiser. On n'apprend pas à prier. On n'étudie pas la parole dans les séminaires. Mais tout ça, c'est le don de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu a établi dans l'Église Éphésiens 4, 11. Premièrement, des apôtres. Ensuite, des prophètes. Et puis il y a des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Tout ça, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et c'est Dieu lui-même qui parle par ses offices-là. Mais maintenant, les gens, ils ont pris leur Bible. Les cinq ministères-là, ils ont pris un feutre noir et ils ont barré le ministère de prophète. Ils ont barré ça. Ça n'existe pas. Dieu s'est trompé. D'abord, c'est pas Dieu qui a parlé. C'est Paul. Paul l'a barré ça. Parce que Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Les prophètes ont existé jusqu'à Jean-Baptiste. Et maintenant, le royaume de Dieu appartient aux violents. Les théologiens ont traduit ça. Ils ont dit, il n'y a plus de prophète. Après Jésus, il n'y a plus de prophète. D'ailleurs, le même Paul là que nous n'aimons pas. Bon, parfois il dit quand même certaines bonnes choses. Il a dit dans Hébreux 1.
Verset 1,
que autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes. Maintenant il nous parle par son fils. Donc Dieu n'a plus besoin de prophètes. Depuis que Jésus est venu, Dieu n'a plus besoin de prophètes. Mais quand ils interprètent ça comme ça, ils oublient que Paul lui-même qui a écrit ça, c'est un prophète. Paul a dit, hein, ce que je vous prêche là, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas reçu d'un homme. Mais c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Et je vous dis que si quelqu'un vient après moi, il reste autre chose qu'il soit maudit. Même si c'est un ange, qu'il soit maudit. Même si c'est moi-même, si je reviens prêcher autre chose, que je sois maudit. Donc vous voyez que tous les pasteurs là sont maudits. Et vous qui les suivez, vous êtes aussi maudits. Alléluia. Mais c'est la Bible. Et Jésus a dit, quand, dans Apocalypse 22, il a scellé la Bible. Il a dit, personne n'ajoute, personne ne retranche. La Bible est scellée. Même le prophète Branham, quand Dieu lui a révélé les mystères, on est venu le piéger. On dit, mes frères Branham, avec tout ce que tu as prêché là, mais on peut écrire le 23e chapitre de la
Apocalypse.
Il a dit non, on ne peut plus rien ajouter à la Bible. Tout ce que je vous prêche là, c'est déjà dans la Bible. Et moi, Branham, j'ai prêché comme un Paul. Alléluia. C'est sur ça que nous nous tenons. Comme les gens de Paul sont entrés, nous aussi les gens de Branham, nous allons entrer. Et tous ceux qui ont rejeté Branham, ils n'entreront pas. C'est la vérité. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Les prophètes, Paul lui-même était prophète. Et Jean, qui a reçu l'Apocalypse, il écrit. C'est un prophète. Parce que la parole de Dieu arrive aux prophètes. Alléluia. Amen. Bon, comme ils ont barré le mot prophète là.
Bon, mais
tous ceux qui se proclament prophètes ici en Koutou. Mais comme ils ont déjà barré ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent alors? Puisqu'il n'y a plus de prophète. Mais pourquoi ils se proclament prophète? Vous voyez? Là, quand vous avez une chèvre, il faut lui donner beaucoup de cordes. Comme ça, elle va s'enrouler sur sa propre corde. Quand vous parlez avec quelqu'un des choses de Dieu, laissez-nous parler. Il parle. Après, de ses propres paroles, vous allez le faire tomber. Vous voyez? Et ils ont dit qu'il n'y a plus de prophète. Et puis il se proclame prophète. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne savent pas où ils sont. Ils ne sont ni debout ni assis. Ah, ils ne savent pas où ils sont. Ils sont totalement perdus. C'est ce qui arrive quand tu veux contester avec Dieu. Personne ne peut contester avec Dieu. Alléluia. On leur a prêché la semence du serpent. Le prophète Branham leur a prêché la semence. Ils ont dit non.
Il
n'y a pas de le diable, le serpent n'a pas de semence.
Alors c'est un coup de coucou.
Ils ont pris la Genèse.
La Genèse.
Ils ont interprété à leur manière. Mais ils ont oublié qu'à la fin de la Bible, Dieu est parti mettre là-bas que Caïn est du malin. C'est-à-dire le fils de Satan. Vous voyez? Bon, bientôt ils vont aller barrer ça aussi. D'ailleurs, ils ont commencé à changer la Bible. Et quand vous parlez avec les prêtres, quand vous leur montrez dans la Bible tout ce qu'ils font de contraire à la Bible, ils vous disent, mais Dieu n'est pas dans la Bible.
Dieu est dans l'Église.
C'est-à-dire l'Église, c'est eux, l'Église catholique. Ils disent que, mais... Le pape a le droit de changer la Bible. Le pape est infaillible. Il y a déjà des hommes qui sont infaillibles. Alors que Dieu a dit dans la Bible que tout homme soit reconnu menteur. Et seul Dieu soit reconnu comme vrai. Alléluia. Mais comment vous pouvez proclamer qu'un homme est devenu infaillible? Infaillible jusqu'à corriger Dieu. C'est pas étonnant que son châtiment soit écrit dans Apocalypse 20. Alléluia. Et dans Apocalypse 18, la Bible dit, Babylone est tombée. La grande Babylone. Et même les théologiens, tous reconnaissent qu'il s'agit de l'Église catholique. Donc, ça dit que partout où vous pouvez prendre, vous êtes coincé. Parce que Dieu est Dieu. Il est omniscient. Quand il est dans l'éternité, là, il savait déjà ce qui va se passer maintenant. Il savait déjà que quelqu'un va se lever pour dire Hébreux 1:1, il n'y a plus de prophète. Dieu savait ça. Alléluia. C'est pour cela que la Bible, on ne la lit pas comme un roman. Dieu prend les choses, il met là-bas. Il met là-bas. Il met par ici. Il faut la révélation de Dieu pour rassembler tout ça et en faire un sujet de prédication. C'est pour cela que il a fallu un prophète. Le prophète, c'est un homme dans lequel Dieu travaille. C'est un ministère. Et c'est Dieu qui travaille dans chaque ministère. Dans chaque ministère authentique, c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de le laisser travailler, de nous mettre de côté, de ne pas avoir nos propres pensées, mais laisser Dieu nous conduire. C'est alors que nous réussirons. Alléluia. Et la Bible dit, dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à Dieu et à ses prophètes. Si vous vous confiez aux prophètes de Dieu, vous allez prospérer. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, dis ne te détourne pas de la loi de mon prophète Moïse. C'est alors que tu vas réussir dans ta vie, dans toutes tes activités. Il faut suivre le prophète de l'heure. Jésus était le prophète de l'heure en son temps. Maintenant tout le monde reconnaît ça. que Jésus était prophète. Mais les pasteurs de ce temps-là, les prêtres de ce temps-là, ils ont contesté.
Ils
disent, non, Jésus, tu n'es pas prophète.
Tu
n'es pas le Messie. D'abord, c'est le diable qui travaille en toi. Un blasphème. Jésus leur a dit, je vous pardonne. Mais quand je vais revenir, alléluia. Est-ce qu'il est revenu? Alléluia. Quand je vais revenir, moi le Fils de l'homme, aucun blasphème ne sera plus pardonné. Ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Jésus est revenu. Il a travaillé dans le prophète Branham. Il a révélé la parole selon Apocalypse 10. Alléluia. Selon Malachie 4. Alléluia. Les gens disent que Malachie 4, c'est Jean-Baptiste. Oui. Luc 1, 17 a dit que c'est Jean-Baptiste.
Luc 1, 17 a dit que c'est Jean-Baptiste.
Mais la première partie, ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Mais l'autre partie là, ramener les cœurs des enfants à leurs pères, ça c'est à la fin du monde. Qui peut contester que nous sommes maintenant à la fin du monde? Tous les signes que Jésus a dit sont là. Nous sommes à la fin du monde. Et en ce moment, Malachie 4 est accompli. Apocalypse 17 est accompli. Alléluia.
Amen.
Vous voyez. Et Jésus, quand il est descendu de la montagne de la transfiguration avec les disciples, il leur a dit, ce que vous venez de voir là, n'en parlez à personne. Mais Pierre, le plus courageux, a dit, mais Seigneur, nous avons vu la venue de Jésus. Ta venue dans la gloire. Mais pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir premièrement? Écoutez maintenant comment Jésus a répondu. Il a dit oui. Il est vrai que Élie va venir. Mais je vous dis, Élie est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Et la Bible dit, et les disciples ont su qu'il parlait de Jean-Baptiste. Donc quand Jésus disait ça, Jean-Baptiste était déjà venu. C'était l'Élie de Malachie 3, l'Élie de Malachie 4, première partie. Mais Jésus a bien dit, Élie doit venir. Ça encore, ils ont fait un feutre noir, ils ont gommé. Bientôt ils vont gommer toute la Bible. Vous voyez, c'est ça, ils ne croient pas à la Bible. Et ils se disent, pasteur, regardez, même ceux qui sont dans le message, ils ne croient plus au prophète Branham. Ce que le prophète Branham a condamné, c'est ce maintenant qu'ils veulent faire. Les écoles de prophètes. Et le frère nous a dit que oui, je n'ai pas pu finir mon enseignement. Vraiment, quand on va encore se revoir, je viendrai pour beaucoup de temps. Comme ça, on va voir ensemble comment faire une école de prophètes. C'est pas étonnant que Dieu a montré à une sœur ici, qui n'est même pas là, je sais pas pourquoi, ça fait 2 jours qu'elle ne vient pas, mais elle a des durs combats. Dieu lui a montré qu'on est venu me tendre un livre. Et Dieu a dit qu'il ne prenne pas ça. Il met ça sur l'autel. Ce n'est pas la parole. Ils font ça pour le détourner de la parole. Amen. Que Dieu soit loué. Elohim, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il a rencontré Abraham au chêne de Mamré. Il était dans un corps théophanique. La parole. Et il a mangé de la viande et du lait. Alléluia. Vous voyez, maintenant il y en a qui disent que non, il faut être végétarien. Il ne faut pas manger la viande. Mais voilà Dieu là qui mange la viande. Et Jésus lui-même, il a mangé le poisson et la viande. Alléluia. Vous voyez combien de théories dans le monde. Des doctrines. Si vous ne faites pas attention, ça vous balance à droite et à gauche. Vous perdez le chemin. Plus tard, nous retrouvons le même Dieu en morphe. De Melchisédek, un homme. De Elohim, un homme dans Genèse 18. Il apparaît à Abraham. À Moïse, c'est maintenant le feu. Un feu sur un buisson, et le buisson ne brûle pas. Moïse a enlevé ses lunettes. Il dit, mais si déjà il voit, comment se fait-il que le feu là ne brûle pas? Ah, le frère Dieu de Nézor. Moïse a posé la question que frère Dieu de Nézor pose. Mais comment se fait-il que le feu brûle sur un arbre et l'arbre ne brûle pas? Comme il était un grand scientifique en Égypte, même qu'il avait oublié beaucoup de choses, il a voulu s'approcher. Dieu lui a dit, attention, arrête-toi là. D'abord, enlève tes sandales. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. C'est pour cela qu'il y a des gens qui marchent nu-pieds pour faire comme Moïse. Mais est-ce que à eux aussi Dieu leur a dit d'enlever leurs sandales? C'est ça leur doctrine dans ce temps de la fin. C'est en enlevant nos sandales que nous serons enlevés. Ils marchent dans des blouses blanches. Il y en a qui font des chemises blanches et des pantalons noirs. Chaque église a sa tenue. Mais l'habillement que Dieu veut que nous portons, c'est les tenues de lin. Le lin fin. Blanc. Éclatant. Et c'est pas fait de main d'homme. C'est les œuvres des saints. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir le fin lin là. Si vous mentez du matin au soir. Mercredi, on en a suffisamment parlé. Je crois que ces démons là vous ont quitté. Mais considérez que c'est pour ça que Ananias est mort. Parce qu'il pratiquait le mensonge. Personne ne lui avait demandé de vendre sa parcelle. Mais au lieu de venir donner le prix, comme faisait tout le monde, il a caché une partie. C'est déjà un mensonge. Et quand Pierre lui dit, mais c'est tout ce que tu as vendu comme prix, il dit oui, c'est tout. Il dit, toi tu viens mentir au Saint-Esprit. Dans l'église du Dieu vivant. Il est parti. Et les jeunes gens l'ont emmené. Ils l'ont enterré. Ils reviennent de l'enterrement. On leur dit, ne vous asseyez pas. Amenez aussi sa femme. Parce qu'elle aussi, elle a menti au Saint-Esprit. Faites attention. Le même Dieu est ici. Si vous ne laissez pas vos mensonges, vous allez subir la même chose. Mais maintenant, c'est spirituel. Tu marches, tu es déjà mort. Quoique vivant. Même si tu as des millions. Tu as des milliards en banque. Tu es déjà un cadavre ambulant. Mort, quoique vivant. Pourquoi? Parce que tu as menti au Saint-Esprit dans l'église. Parce que tu as blasphémé. Alléluia. Dieu a rencontré Moïse en morphe dans la colonne de feu. Et c'est dans cette forme-là qu'il s'est montré aux enfants d'Israël dans le désert. Après un moment, il a dit à Moïse, cache-moi. Il ne faut plus que les gens me voient. Fais un tabernacle. Et Dieu est rentré dans le lieu très saint. Caché par des pots de blaireau. Parce que le voile qui divisait le lieu saint et le lieu très saint était fait de peau d'animaux. Et l'animal là, c'était le blaireau. Alléluia. Dieu maintenant a décidé de se cacher derrière une peau. Ce tabernacle dans le désert typifie seulement les hommes. Le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. Et nous les hommes, nous avons un corps, un esprit et une âme. Et Dieu veut habiter dans nos âmes. Dieu est toujours et maintenant voilé. C'est pour ça que quand il est descendu en Jésus, il est entré en Jésus après le baptême. Il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai plaisir d'habiter. Mais comme il était caché par la peau de Jésus, les gens ne pouvaient pas voir Dieu. Ils ne pouvaient pas voir la colombe, la colombe qui était rentrée en Jésus. La colonne de feu, le Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui habitait en Jésus corporellement. La Bible dit que Jésus avait la plénitude de Dieu corporellement. Et 1 Timothée 3,16 dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. C'est ça le signe que Dieu a donné à l'homme. Le super signe. Dieu dans la chair humaine. Et nous avons reçu le même signe en ce temps de la fin. Dieu manifesté dans la chair humaine. Et ça, c'est ça que Dieu veut faire en chacun de nous. Il veut habiter en chacun de nous, en ceux qui croient en lui, et ils vont manifester Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. Même la nature soupire. Tous attendent ça. La manifestation des fils de Dieu. Parce que la nature sait que c'est ça qui va apporter la délivrance. Dieu dans sa fille. Dieu dans son fils. Dieu dans son église. C'est pour cela qu'il est venu ici. C'est pas pour des amusements. C'est pas pour la guérison. C'est pas pour les miracles. Non. Il est venu, c'est pour être manifesté en nous. Et quand il est en nous, alors il va agir. Il va guérir. Il va bénir. Il va ressusciter. Il va multiplier les pains. C'est ça. Dieu a besoin de corps. Mais mon frère, si tu ne donnes pas ton corps à Dieu, si tu suis encore deux chemins, mais Dieu ne peut pas travailler en toi. Alléluia. Vous voyez, il faut suivre un seul chemin. Il faut suivre Dieu. Donner son corps à Dieu. Pour que Dieu puisse travailler en nous. Il a dit, je veux vous faire devenir comme moi. Mais pour que nous devenions comme lui, il faut qu'il habite en nous. Dieu en morphe. Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. C'est pour cela que Jésus s'étonnait. Mais dit Philippe, toi tu dis que je te montre le Père, mais tu ne me vois pas. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Comment peux-tu encore dire, montre-nous le Père? Mais qui parle en moi là? Mais qui agit en moi? Les œuvres que je fais, je ne fais pas de moi-même. C'est mon Père qui est en moi qui fait les œuvres. Si vous voulez voir Dieu, avec ces yeux-là, vous ne pouvez pas voir Dieu. Mais vous allez voir Dieu par les œuvres qu'il fait. Quand vous verrez quelqu'un faire les œuvres de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. C'est ce que les pharisiens ont manqué. Pourtant, Jésus faisait les œuvres qui étaient promis qu'il devrait faire. Mais les pharisiens, tellement aveuglés par leur convoitise, parce qu'ils étaient les chefs religieux, ils ne voulaient pas suivre un gamin comme ça. Ils lui ont dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Et puis tu dis que tu es plus grand que notre père Abraham. Jésus leur a répondu, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Et ils n'ont même pas compris. Mais vous, est-ce que vous comprenez? Alléluia. La sœur Emilienne, tu comprends ça? Qu'est-ce qu'elle dit?
À mon goût,
que Dieu te bénisse. Il faut voir ça. Si vous voyez les œuvres que Jésus a faites ici, alors sachez que Dieu est ici. Et la première œuvre de Jésus, c'est la parole. Alléluia. Quand vous allez dans une église, considérez qu'est-ce qu'il prêche là-dedans. Si ce n'est pas la parole, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne dit pas autre chose que la parole. Mais si c'est la parole, alors restez là. Accrochez-vous là. Croyez la parole. Alléluia. Et vous verrez ce que Dieu va faire en vous. C'est pour cela que Jésus a dit dans Marc 11, si vous dites à cette montagne, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir. Dis seulement aux douleurs là. Jetez-vous dans la mer. Et crois seulement. Et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Sinon, c'est déjà fait. Quand Dieu parle, c'est déjà fait. Dieu a dit à Abraham, je je vais te faire père des nations. Pour Dieu, c'était déjà fait.
Amen.
Maintenant, est-ce que Abraham n'est pas père des nations?
Amen.
Est-ce que nous ne sommes pas les fils d'Abraham?
Amen.
Tous ceux qui croient en Jésus sont les fils d'Abraham.
Amen.
Parce que le fils que Dieu avait promis à Abraham, ce n'est même pas
Isaac,
mais c'est Jésus. La semence royale
d'Abraham.
C'est en Jésus que Abraham est devenu père des nations. Si c'était par Isaac, Abraham ne serait que père d'Israël. C'est une seule nation. Mais maintenant, c'est père des nations. C'est en Jésus-Christ. Alléluia. Croyons Jésus-Christ. Devenons Jésus-Christ. Alléluia. Oh, le temps est en train de passer. Et la colonne de feu est venue habiter en Jésus. Jésus était le tabernacle de Dieu en ce temps-là. Et quand Jésus est mort et ressuscité, il a dit aux disciples, je vous envoie le Saint-Esprit. C'est-à-dire mon Père. Parce qu'il leur avait dit, hein, mon Père et moi, nous viendrons habiter en vous. Et le jour de la Pentecôte, les 120 qui étaient dans la chambre haute ont reçu Jésus-Christ et son Père. La même colonne de feu là qui était avec Moïse dans le désert s'est posée sur la tête de chacun d'eux. Et une partie de Dieu est entrée dans chaque homme. Dans chaque femme. Marie aussi était là. Elle a dû recevoir le Saint-Esprit pour elle aussi aller au ciel. Mais vous, vous dites que c'est en adorant Marie que vous allez partir au ciel. Non, la porte, la clé du ciel, Dieu l'a donnée à Pierre. Et Pierre, c'est pas le pape. Hein. Pierre était le pasteur de l'église de Jérusalem. Mais l'église catholique n'existait même pas en ce temps. L'église catholique est née 300 ans plus tard. Alléluia. Mais la clé était avec Pierre. Et il a dit pour rentrer au ciel, il faut avoir le Saint-Esprit. Frère Kofi, tu entends bien? Pour rentrer au ciel, c'est pas la guérison. Même quand tu es guéri là, tu peux dire maintenant, comme je suis guéri, je vais aller au ciel. Non, la clé c'est acte 2, 38. Repentez. Allez tourner le dos à toutes vos traditions. Les traditions des ancêtres. Les traditions des églises. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Tournez le dos à ça. Repentez-vous. Faites demi-tour. Alléluia. Et pour que vos péchés soient pardonnés, comme vous vous êtes repentis, alors il faut prendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. On vous plonge dans l'eau. Comme Jean-Baptiste plongeait les gens dans l'eau là. Et pendant qu'on vous plonge dans l'eau, on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut se repentir. Mais comment vous pouvez baptiser les petits-enfants? Petits-enfants qui viennent de naître. Quel péché il a même fait pour se repentir? Est-ce qu'il a même la capacité de se repentir? Il n'a pas la capacité de choisir entre le bien et le mal. Alléluia. Il faut attendre l'enfant et l'âge de la raison qu'il puisse savoir ce qui est mauvais, ce qui est bien. Alléluia. D'abord, il ne faut même pas se précipiter à baptiser les enfants. Sauf si Dieu le demande. Alléluia. Repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le Saint-Esprit.
Amen.
Voilà la clé du ciel.
Amen.
Et il n'y a qu'un seul moyen pour y entrer. C'est celui-là. Jésus a dit, je suis le chemin. C'est celui-là. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Il faut avoir le Saint-Esprit pour entrer au ciel. C'est pas par les œuvres que vous faites. Dieu n'a pas besoin de vos œuvres. Mais les œuvres que Dieu compte, c'est les œuvres que le Saint-Esprit fait en vous. Recevez d'abord le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va travailler en vous. Et si le Saint-Esprit travaille, toi aussi tu vas travailler. Tu fais quoi? Mais oui, bien sûr, tu te reposes. Mais s'il y a quelqu'un qui travaille pour toi, tu vas encore travailler, mais tu n'as rien compris. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous mettre au repos.
Amen.
Parce que lui, ce qu'il compte, c'est ce que lui-même il fait.
Amen.
Mais d'ailleurs, vous ne voyez pas que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent a échoué.
Amen.
Maintenant, Jésus est venu.
Amen.
Il dit, je reviens.
Amen.
J'ai dit que je vais parcourir ce sentier une fois de plus.
Amen.
Maintenant, je commence cette chose avec vous.
Amen.
Il dit, je parle moi-même, j'agis moi-même. Mais si Dieu parle, mais on doit se taire. Et si Dieu agit, on doit faire comme Éliezer. Quand il est parti chercher la femme d'Isaac, la Bible dit que le Saint-Esprit l'accompagnait. Et quand il a décrit ce que la femme là devait faire, le Saint-Esprit est parti prendre Rebecca, et qui est entré dans Rebecca pour donner l'eau à Eliezer. Et sans que Eliezer lui demande, elle a nourri 10 chameaux qui ont traversé le désert, qui pouvaient boire 50 litres chacun. Vous voyez, abreuver 10 chameaux, 50 fois 10, 500 litres.
50 de l'eau.
C'est 2,5 d'eau. Il faut remplir ça. Mais elle a travaillé. Quand Jésus vous appelle, c'est pas un dîner de gala. C'est pas l'amusement. C'est dur. C'est un combat. C'est pour cela, à la fin de la bataille, nous serons couronnés. Couronnés d'une brillante couronne. Alléluia. À la fin de la bataille, nous serons couronnés. Oh, nous serons couronnés. Oh, nous serons couronnés. À la fin de la bataille, oui, nous serons couronnés. Dans la nouvelle Jérusalem, nous serons couronnés, couronnés, et couronnés, couronnés d'une brillante en désert couronnée. À la fin de la bataille, on sera couronnés, et à la nouvelle Jérusalem. nous serons couronnés? Parce que nous aurons vaincu. Alléluia. Dieu nous a donné la victoire. Et il l'a accompli. Alléluia. Et alors nous serons couronnés d'une brillante et belle couronne. Alléluia. Et comment nous allons chanter ça? Je crois que quand les saints entreront, il y aura des cris, il y aura des chants. Alléluia. Il n'y aura pas de poteau, ni de fauteuil. Alléluia. À la fin de la bataille, on nous fera gagner. Vaincu, louez le Seigneur, parce qu'il a dit, hein, louez-moi, je connais tous vos besoins. Alléluia. Vous louez-moi seulement. Amen. Prions tous ensemble. Louons le Seigneur, parce qu'il est venu à nous. C'est pas nous qui l'avons cherché, mais c'est lui qui est venu à nous pour nous prendre. Prions ensemble.
Quiconque viendra ici dans ce tabernacle, oh, que tu le rencontres. Tu prends possession de ton Seigneur. Oh mon Dieu, mon Dieu, je te puissant, tu es mon Dieu, tu es juste, tu es roi de roi, le Seigneur, béni sois-tu. Loué sois-tu dans les siècles et des siècles. Mon Dieu, je te prie, je te prie, tu es merveilleux. Oui, nous voulons te voir, Jésus, avec nous, le Seigneur. En ta présence, nous serons plus heureux que nous sommes réjouis. Parce que toi, tu as déjà fait, Seigneur. Oh mon Dieu, tu l'as déjà fait, Seigneur. Comme nous l'avons fait, que chaque cellule dans ta mère, oh Dieu, qu'elle nous aille dans les lieux d'habit, là où il n'y a pas d'enfants de Dieu. Je les condamne pour Dieu. Donne à chacun de nous la foi, Seigneur. Alléluia, le Saint-Esprit. Alléluia, à toi et à toi, Dieu. Dieu, 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 Dieu. Oui, merci parce que tu es aussi à nous. Nous t'avons vu. Et nous allons te voir. Travaille.
Oh, la victoire en Jésus, mon sauveur pour toujours, me chercha, oh, me racheta par son sang rédempteur. Oh, mais ma corps, 22, et tout mon amour est pour lui. Je plongea dans la victoire, dans le flot purifiant. Oh oui, oh, la victoire à Jésus, mon sauveur pour toujours. Je cherche à me racheter par ton sang rédempteur. Oh, mais ma grâce, je l'ignore, tout mon amour est pour lui. Dans la victoire, dans le sang du vivant, j'ai appris des histoires, comment vaincre gloire un sauveur, qui donna sa vie là au calvaire, pour mon salut, ma vie. Comment il avait aimé, comment son prêtre s'en est-il. Alors je me suis repenti, victoire j'ai remporté. Oh oui, oh la victoire en Jésus, mon sauveur pour toujours. Je cherche à me racheter car son sang est en cœur. Oh, mais maintenant je l'ignorais, tout mon amour est pour lui. Me plongea dans la victoire, dans le purifiant. On m'a dit qu'il guérissait, que sa puissance l'avait fait. Comment il m'a fait le boîte, et puis voir les vapeurs. Et puis décidé, quel Jésus, j'ai guéri mon esprit brisé. Jésus vint, je ne sais comment, m'apporter la victoire. Oh oui, oh la victoire, oh Jésus, mon sauveur, pour toujours. Pour moi dans la gloire, j'entends parler des rues pavées d'or, car de là la mer plus, et aussi des ans, des ans, de la vieille histoire du rachat. Un jour je chanterai la route, je chanterai la vie. Thank you.
Notre Père Céleste, gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu nous as donné la victoire. Et nous combattons dans cette victoire. Oh, la victoire est certaine. Le diable doit partir, parce que tu l'as vaincu à Golgotha. Oh, ce n'est qu'un épouvantail, ce n'est qu'un usurpateur, un menteur. Il n'a plus aucun droit sur nous. Et nous le chassons du milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres plus que vainqueurs. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est toi que nous voulons dans nos vies, Seigneur. C'est à toi que nous donnons nos corps, nos esprits et nos âmes, afin que tu puisses travailler en nous, Seigneur. Tu puisses parler en nous. Tu puisses vivre en nous, Seigneur. Fais de nous selon le bon plaisir de ta volonté, Seigneur. Nous croyons ta parole. Ta parole est la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois béni, loué au siècle des siècles. Qu'à toi soit le règne et la puissance et la richesse. Ô Dieu, règne sur nous, Seigneur. Alléluia. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur des cieux et de la terre. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, conduis-nous dans nos maisons, Dieu Tout-Puissant. Éloigne les obstacles que Satan a mis sur la route. Oh, Dieu Tout-Puissant, bénis la nuit, donne-nous du repos. Et que demain, nous puissions continuer à te servir et à te chanter, à te louer. Bénis le culte du dimanche, Seigneur Jésus-Christ. Et que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Bénis les malades au milieu de nous, Seigneur. Donne la foi à notre sœur accouvie, la foi de chasser les démons, de chasser les douleurs, la foi de proclamer sa guérison, de témoigner, Seigneur, et de persévérer, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu l'as déjà fait. Ô Dieu, tu nous as déjà donné la victoire, Seigneur. Nous chassons au loin les démons de Laodicée au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Pour voir aux besoins de tous les saints, nous te l'avons demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie. Nous sommes libres plus que vainqueurs.
Amen.